C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Bravo. Avec Leïla Kadobou-Dhabi.
Bonjour
à tous. Daniel Morin, tu saignes les oreilles. Tu saignes les oreilles. Albert Algou.
Bonjour.
Ben Villa.
Bonjour.
Et
bonjour.
Notre invité, Majid Chafi.
Bonjour.
Bienvenue Majid, bienvenue. J'avais plein de chansons à vous proposer, mais ça, j'ai été puni. On m'a enlevé mon jouet. Majid signe un nouvel album qui s'appelle Catégorie Reine, qui est l'écho de Ma part de Gaulois.
Oui, c'est vrai.
Quand même, un tout petit peu, beaucoup. Il n'y a pas tout, il n'y a pas tout l'érotisme qu'il y avait dans le livre.
Non, c'est beaucoup plus résumé.
C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez bien compris, François, pourquoi nous avons invité Majid Cherfi?
Salut Nagui, bien sûr que je sais pourquoi nous recevons Majid. Heureusement que je sais, parce que j'ai l'impression que vous n'en savez rien. Ou alors c'est pour me faire bisquer. Votre côté taquin, votre côté coquin. Ceci dit, pour être franc avec vous Majid, tout à l'heure, juste avant l'émission, le spectacle de Nagui hors de lui en train d'engueuler son équipe à cause de vous, Majid. C'était pas beau à voir. Voici ce qu'il a dit. Quoi? Majid Chafi en invité principal. Vous êtes dingue ou quoi? En invité musical à la rigueur. Même le farcir en interview pendant une heure et demie, c'est au-dessus de mes forces. Comme JNB, notre rédac chef, tout en esquivant les gifles qui pleuvaient sur lui, osa demander « Pourquoi ces préventions, maître ?» Nagui de lui rétorquer « À cause de son accent. S'il y a un accent que je supporte pas, c'est bien l'accent de Toulouse. C'est pas que j'aime pas les Toulousains, ils ont le droit de vivre et de se gaver de cassoulet. Mais leur accent, c'est pour moi une vraie souffrance. Il me fait saigner des tympans. D'ailleurs, mon ORL m'interdit de dialoguer avec des Toulousains. Mais bon, une fois de plus, je vais assurer. De toute façon, je compte sur vous pour le pitch, François. » Alors, le pitch, oui. Le pitch, c'est ma spécialité, Nagui.
Ouais, c'est tout. Et donc, un disque, ça va être bien, ça.
L'album de Majid, oui. Catégorie Reine, c'est simple. C'est un album qui évoque la reine des catégories. Et voilà.
C'est
quant à moi, je me sens très proche de Majid. Je l'ai compris en lisant une interview où tu disais, Majid, au début, je chantais sans vraiment être chanteur. Exactement comme moi. La seule petite différence, c'est que je ne suis jamais vraiment devenu chanteur. Et tout comme toi, enfant, j'écoutais Sardou, Mike Brown, Stone et Chardin et c'est Jérôme. Mais moi, j'ai continué. Et puis, il y avait les chanteurs blonds qui s'appellent François, et à qui je dois mon nom. François Valéry, Claude François, Jean-Pierre François, François Feldman, et même Frédéric François, ce traître qui est belge et qui n'est même pas blond. Oui, être François, François français. On est chez nous. Ma part de Gaulois, c'est la mienne. Allez, salut Majid, bonne émission.
Merci,
bonsoir. France Inter, Nagui, la bande originale.
La catégorie reine, la catégorie qui va bien, on veut de la catégorie reine, la catégorie qui est pas la plus pourrie.
Cet album a une histoire bien particulière parce que d'abord, il est le résultat d'un financement participatif, c'est ça? C'est KissKissBankBank qui vous a permis de réunir les fonds?
Ouais, absolument.
Ça coûte cher de faire un album en 2017?
Pour moi, ça coûte cher parce que comme je ne suis pas musicien, je fais appel à des interlocuteurs. Et donc, voilà.
Donc, ce sont les musiciens qui coûtent cher, le studio, le marketing, la pochette, la promo, qu'est-ce qui coûte cher?
Un petit peu tout. Ça, ça coûte cher. Location de studio, salaire de musicien, en fait, tout ce qui fait un album, quoi.
D'accord, ok. Enfin, cet album a été écrit dans la résonance, on disait, de votre roman autobiographique, Ma part de Gaulois, qui était le troisième que vous écriviez.
Absolument.
C'est ça. Comment l'histoire s'est passée? C'est-à-dire que sur ce roman, ou en écrivant ce roman, il y a des mélodies qui sont venues, ou il y a des passages de votre histoire qui résonnaient comme une chanson potentiellement, ou c'est venu bien plus tard?
Alors, pas des mélodies.
Parce que le roman, mais... il a quoi? Il a un an ou deux?
Oui, il est sorti fin août de 2016.
C'est ça. Même pas un an, alors, pardon.
Ouais. Mm. Et donc, en fait, pas tellement les musiques, mais des thèmes de chansons. Et donc, je finissais un chapitre et je me disais, oh putain, c'est une bonne idée de chanson. Et puis, j'ai fini par en écrire 16 ou 17, tout en écrivant le bouquin.
Nous, c'était il sur le trottoir d'en face, et il y avait elle. Mes petits problèmes, voyous au féminin, ça fait jamais voyelle. Elles étaient si proches, juste éloignées de quelques mètres, qui ressemblaient à s'y méprendre au kilomètre, à cause de quelques-uns qui aimaient pas Apollinaire et qui pour s'occuper se tripotaient comme des légionnaires.
Voilà, tout est dit. Parce que tout est dit et non, et tout n'est pas dit. C'est ce qui est... Moi, ça, j'ai presque envie de dire, maintenant que vous allez écouter l'album, retournez lire le livre. Parce que c'est plus approfondi dans le livre, évidemment, parce qu'on a le temps de raconter des histoires. Il n'y a pas, par exemple, dans l'album, ou alors je suis passé à travers, toutes les claques que vous preniez, justement, parce que vous étiez un peu l'intellectuel de service, le poète.
Ouais.
Qui se faisait, qui se prenait
des tartes,
en se faisant traiter de PD, parce qu'évidemment, si on aime la littérature,
on est un peu une
féminé.
Tapette.
Ouais,
c'est féminé, exactement.
Non, mais ouais. Le mot est insultant, mais le mot est utilisé dans le livre. Je me souviens,
c'était pas tant homosexuel.
T'es qui toi? T'écris des poètes, quoi? Ouais, tu PD.
Oui, voilà, je formulais une phrase avec un passé simple, par exemple.
Ouais.
Mais tu es un PD.
Ouais, c'est ça.
Mais tu es français.
Ah, ce qui est une insulte aussi.
Oui, évidemment, oui. Oui, parce que français, on est quand même dans un parfum de fin de guerre d'Algérie. Donc, quand on est blanc, on est un petit peu pédé. Quand on est érudit, on est un petit peu français. Quand on est français, on est un petit peu pédé. Et donc, il y a une espèce de blougi-boulga.
Et donc, vous preniez des bouffes comme ça, des tartes. Vous preniez des insultes de la part
des
copains de la cité. Parce que vous maniez la plume.
De l'érudition.
Ouais, et vous aviez cet amour de la langue française, à tel point que même tel Cyrano de Bergerac, vous écriviez pour les autres.
Oui, pour les garçons.
Donc des
poèmes pour qu'ils aillent attraper des filles et pour qu'ils me racontent ce qui s'était passé.
Ce qui vous mettait dans un état d'excitation.
D'excitation absolument sublime, quoi. Et puis pour les filles qui me disaient, bon, si tu m'écris un poème...
Non, finis pas la phrase.
C'est vrai.
Non.
Non, je la dis pudiquement alors.
Ok, d'accord.
Tu pourras m'effleurer le pédoncule.
Voilà.
Et moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un pédoncule à l'époque.
Bon, en général, on trouve vite.
Chez moi, c'était long.
Il y avait aussi, si tu m'écris un poème, je t'offrirai une gâterie. Enfin, il y avait des propositions qui étaient faites comme
oui,
ça par
bah,
des...
Vous,
par
vous
des
êtes toujours le 06.
Bon, je pensais que c'était il y a très longtemps.
Non, mais c'est dans le livre en tout cas.
Oui,
tout
oui, absolument,
oui. Et d'un coup, sur la chanson, quand on arrive à la chanson, on est moins là-dessus. On est moins dans le côté presque poétique et joli et érotique. D'ailleurs, que vous racontiez de votre envie comme ça d'écarter un petit bout de coton, un petit bout de tissu de coton pour découvrir justement la beauté des filles.
Ouais, parce que j'ai moins le courage quand il s'agit après d'aller le chanter en public.
Ça se fait pas de chanter ça en public?
Si, ça peut se faire. Il y a eu des Gainsbourg, il y a eu des choses comme ça. Ça peut se faire. Mais moi, j'ai pas ce courage, je dirais.
Qu'est-ce qu'on n'assume pas, c'est d'être face à quelqu'un, alors que dans le bouquin, chacun est chez soi et on n'a pas le lecteur face à soi.
Oui, c'est vrai. Moi, le bouquin.
Tu croises un regard quand tu chantes, en fait.
dans le bouquin, j'ose, parce qu'on sait que on envoie ça à une maison d'édition, puis on voit pas le lecteur lire. Et même on se fait peur quand on se dit à certains passages. Et bon, moi après je dirais que c'est une histoire d'éducation de culture. J'ai eu une éducation de curé à la musulmane, je dirais. Et donc on se défait pas de tous ces tabous comme ça. Et à l'idée d'avoir.
Pourtant dans le livre vous êtes bien lâché quand même.
Pour le livre, ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, vous êtes bien lâché.
Mais encore une fois parce qu'on voit pas le lecteur lire devant soi.
On part quand on n'a pas de peau. À la rencontre d'un zippo, et tant pis si pour l'attraper, il va falloir sortir l'épée. On part quand on est mal loti, pour un peu de riz basmati, pour quatre saisons qui vous mettent une allumette dans la tête. On part un peu pour la patrie, on part pour libérer un lit, puis on s'accroche, on n'est pas prêt. Comme un tableau noir sacré.
Et la plus importante de toutes les filles, évidemment, c'est votre maman.
Et c'était Inch'Allah peut-être. C'est la promesse même qui a un mais. Inch'Allah peut-être. Et tant pis si ça n'arrive jamais.
Je pense pense qu'on a eu la même. Je pense qu'on a eu la même.
Oui, je crois. Oui.
Le niet et Inch'Allah peut-être, c'est-à-dire que tu peux toujours courir, tu ne sauras jamais.
Exactement. Ça aurait pu s'appeler, la chanson aurait pu s'appeler Tu peux toujours courir.
C'est ça.
Alors, j'ai trouvé ça marrant qu'une promesse divine, Inch'Allah, devienne dans la bouche de nos mères. Jamais. Et donc, maman, ouais, je pourrais aller au ski avec les copains à Bonastre. Inch'Allah, mon fils. Maman, je pourrais avoir des Adidas. Inch'Allah, mon fils. Et toute la vie, tu vois jamais rien venir.
C'est une façon d'avoir la paix sociale, en fait. Pour pas dire non, c'est
exactement,
juste dire Inch'Allah, peut-être. Écoute,
alors, il manque peut-être une chanson sur l'album. Ça serait la chanson de votre papa, qui serait Ferme ta gueule.
Oui, ta gueule.
Ta gueule, ferme ta gueule.
Voilà, si,
pour pas dire ferme ta gueule.
Ferme ta gueule.
Parce que c'était une réponse que vous aviez souvent aussi, c'est le tais-toi.
Oui, parce que c'est, voilà.
Là aussi, il y a un truc qui résonne. Ah, là, j'ai l'impression.
Non, mais c'est pas méchant.
C'est pas méchant. Que, c'est ferme ta gueule.
Non, c'est juste que dans une maison, il y a les parents et il y a les enfants et il n'y a pas de confusion entre le statut de l'enfant et le statut de l'adulte et qu'il y a un moment quand t'as pas voix au chapitre, on te l'explique rapidement et puis mais pas méchamment, c'est juste de dire que ça te concerne pas. Donc après, avec des expressions plus ou moins heureuse, mais c'est pas méchant.
Oui, c'est ça. Puis nos parents avaient une espèce de statut divin.
Bah
je suis ton père, donc je suis tout. Je suis ta mère, je suis le reste.
Ouais.
Ça, c'était la version de votre papa.
La version de papounet, ouais.
Mais dans la familiarité, alors il y en a une qui est odieuse, c'est la chanson « Tu », moi qui m'a beaucoup ému.
On a dit à mon père « Tu », on lui a dit « Tu », et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous, et j'avoue que cet étranger qu'a dit-tu à mon père, est-ce qu'au moins c'était son frère, est-ce qu'au moins c'était son ami, pour qu'il se le soit permis.
Une humiliation.
C'est l'histoire d'humiliation.
Le bien cassé l'ambiance.
Moi, c'est marrant, je veux dire, le hasard. C'est une anecdote personnelle. J'étais enfant, j'étais dans une famille, disons, d'extrême droite. Et à Poissy, il y avait beaucoup de travailleurs immigrés. Et sur le pont de Poissy, il y avait des contrôles de flics. Et un souvenir d'enfance qui m'a marqué, c'est le tutoiement. C'est les flics arrêtaient des jeunes travailleurs et ils les tutoyaient. Je dis pas la suite parce que on va dire c'est anti-flic, mais à l'époque, ça a changé. Ils balançaient les papiers à la Seine et j'ai vu un homme pleurer qui était tutoyé, qui était humilié. Et pour moi, ça a été décisif dans ma vie. Ça m'a fait comprendre plein de trucs. Et j'allais dire, c'est paradoxal parce que
surtout que tu rentrais dans la police plusieurs
fois. Ce tutoiement infâme m'a fait comprendre l'infamie. Et j'ai été très ému de votre chanson parce que j'ai retrouvé, c'est pas du même point de vue que vous, mais d'un autre, de l'autre côté, si vous voulez.
C'est la même situation en tout cas, vu de différents angles, mais avec la même sensibilité.
Je devais avoir 12 ans et je sais que ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Parce que je me dis,
oui, ça marque.
Il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas.
Je te garantis que quand tu le vis, à quelques âges que ce soit, j'oublie pas la première fois. Mais il se trouve, le paradoxe, et j'embrasse tous ceux qui nous protègent, comme Renaud avec cette belle police, mais il y a toujours des cons partout. Et donc, on va pas généraliser.
De toute façon, il y a des Français d'origine maghrébine dans la police.
Mais exactement. Okay. Mais je n'oublierai jamais le premier tu agressif d'un policier qui m'arrêtant, prenant les papiers d'identité, recopie mon adresse sur une feuille libre comme ça, en me disant maintenant je sais où t'habites, Bougnoul. Et il me rend mes papiers. Tu peux pas oublier ça dans ta vie.
C'était un fan. Bon, il y a le mal partout.
Tu peux pas l'oublier. Ça. Mais c'est vrai que ce tu qui tue. Oui. Cette tournure de phrase, elle est formidable.
Et la réponse, il s'est tu aussi, parce que c'est aussi une génération dont vous parlez.
C'est une génération, bien sûr.
Oui, c'est une génération.
Ça se passerait pas aujourd'hui de la même manière.
Oui, absolument.
C'est quand même
Moi, je me souviens qu'il y a eu cette bataille linguistique de mes parents qui... Alors, nous, on leur disait, il faut dire vous aux gens. Et les gens leur disaient tu. Alors, ils étaient dans une espèce d'imbroglio. Et alors, moi, j'accompagnais ma mère à la poste. Elle disait, elle tutoyait, du coup... Tu me donnes l'argent, tu me remplis la fiche. Et moi, je tirais ma mère par la jupe. On dit vous. Ça a duré des mois. Elle tutoyait, je tirais la jupe. un jour à la sortie de la poste, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? On ne dit pas tu, on dit vous. Et là, elle me fait, mais elles étaient combien? Là, j'ai dit, j'y arriverai jamais.
C'est du zéro.
J'habitais la cité, promis, ça n'était une, je l'ai habité. Une cité, que dis-je, plutôt un zoo, puisqu'on s'y donnait des noms d'oiseaux. On était griffés comme des ratures, et peints pour voir son voisin en peinture. Moche à des pères à la fée Carabosse, nous c'est à l'intérieur qu'on avait des bosses.
Il y a aussi des vannes quand même, parce que ça, vous aimez bien vous moquer des copains aussi de la cité, de leur nez qui ressemble à un cucurbitacé, et ainsi de suite. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il a pris cher.
C'est un basique.
Ça, on peut pas faire autrement, ça c'est quoi? Non,
c'est... Le quartier, c'est chambrante.
Ouais.
Donc on se chambre et personne n'a un prénom. C'est-à-dire celui que le premier qui émerge avec le moindre défaut, il a son nom d'animal, quoi. Et voilà, alors c'est face du hibou.
Et vous c'était quoi?
Moi c'était bœuf en daube.
C'est précis.
C'était précis, voilà. Parce que j'étais rondouillé, gras et mou.
Gras et mou.
Voilà, je fais la liaison. Et donc, c'est entre autres, bœuf en daube.
En tout cas,
et ça fait plaisir.
Vous l'avez compris, il résonne et il résonne bien. Et c'est du Majid Chiafi sur mesure, catégorie reine. Cet album qui vient vous redonner envie, si vous ne l'aviez pas découvert, de relire Ma part de Gaulois chez Actes Sud. Et l'album va donner une tournée. Cet album va vous permettre de chanter, que ce soit à Agen, au festival Rock à Libye, ça sera le 27 mai prochain, là c'est la semaine prochaine carrément. Ensuite il y a Bobigny, Angoulême, Bordeaux, Villeurbanne, Bruxelles, Namur. On arrive le 1er juin où d'ailleurs il y aura un concert ici à la Maison d'Art Radio. Oui, ça se passera, c'est pour FIP, c'est pour nos camarades de FIP. Il y aura, je suis étonné qu'il n'y ait pas Olivia Ruiz d'ailleurs, elle n'était pas libre.
Et oui, elle n'était pas libre.
C'est ça, parce qu'il y a un duo.
Il y a un beau duo.
Il y a un duo dans l'album avec oui.
Exactement, le voici.
Les gens.
En tout cas, dans cette soirée spéciale sur FIP, live à FIP, il y aura Alexis HK, Christian Olivier des Têtes Raides, Florent Marché, Slimane Dazy, Thomas Fersen également. Le...
Slimane Dazy, génial.
Oui.
Le comédien.
Oui.
Oh, il est super.
Le concert sera le jeudi 1er juin de 20h à 22h au studio 105, Maison de la Radio. Et tout ça sera présenté par Stéphanie Daniel. Et pour situer ceux qui disent, mais ça me dit quelque chose quand même, Majid Chiafi, ce que j'entends, tout ça, tout ça. Il faut toujours resituer quand même, on sait jamais. Hein.
On sait jamais.
Ça a marché cette chanson, je
me rappelle. Ah, punaise. Et je peux te dire que dans N'oubliez pas les paroles, ça continue de mettre le feu, cette
99
chanson.
Oui, oui. Ouais.
C'est un boulet à traîner. C'est un boulet à traîner, un succès comme ça.
Oui, quand même, oui, parce que ça, les gens finissent par ne plus entendre que ça et ne vous voient plus que dans ça. Et moi, j'en ai souffert. Parce que j'ai quand même voulu que Zebda garde une identité sensible, puisque c'était le projet originel. Et là, on était de ci, de là, comme une bande à Basile. Sauf le respect que je leur dois.
Vous ne voulez pas être des chanteurs comiques.
C'est super, ouais, la bande absolument. À Basile.
Et pourtant,
que j'aime aussi écouter.
Pourtant, ouais. Par le prisme de l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages.
Là, ça, c'était mieux pour moi, ça.
Ouais, mais il y avait toujours le sourire. Il y avait aussi
un délice.
Ouais.
Ouais.
Bon, un délice, sauf que sur ce titre.
Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible.
Ça donne toujours Fernando, sauf que c'était un pote.
C'était un pote, c'était un génie pour moi, et il a basculé dans l'horreur. Et je n'ai pas compris.
Oh, tiens, que ça, c'était pour la rime avec l'horreur, excusez-moi, c'était une maladresse de ma part. Le bruit et l'odeur. Vous sonnez, Majid, la première fois qu'on a fait cette chanson, Ataratata?
Ouais. Ouais, je m'en souviens, je me vois encore.
Que vous ne vouliez pas la faire. Parce que il y avait peut-être embrouille, et que moi je vous avais dit, si vous la faites pas, cette chanson, on va
vous
dire.
Casser.
Non, et puis on va dire, il y a une censure.
Ah oui.
On va dire, il y a une censure.
Ouais.
En fait, vous vous auto-censuriez.
Oui, on s'auto-censurait.
C'est
ouais.
fou, ça.
Ouais, ouais, mais c'était l'âme du groupe, c'est qu'on voulait pas basculer dans des caricatures l'une ou l'autre.
C'était la vérité. Enfin, je veux dire, moi, j'avais été comme plein de personnes totalement choqué par cette déclaration de Jacques Chirac à l'époque.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit le panier à côté de son HLM.
C'est dingue.
Entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur.
Quelle belle voix quand même. Quel timbre.
Il a inventé le slam en même temps.
Ça me donne
encore froid dans le dos de réentendre ça.
Alors c'était tellement énorme, on s'est dit les gens vont penser qu'on charrie encore. Et donc le problème c'est l'énormité du discours.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Les gens pensent que c'est Le Pen quand même longtemps.
Ouais.
Ils pensent que c'est Jean-Marie Le Pen.
Oui, mais c'est la droitisation. Déjà à l'époque, c'était la droitisation de la droite pour aller chercher l'électorat Front National. Et c'était déjà la stratégie qui a été mise. Qui a été mise en œuvre à chaque fois, à chaque présidentielle, à chaque fois, tu vois, dans les derniers mois d'une présidentielle, la droite ouvre vers l'extrême droite pour aller chercher.
Ramasser des voix.
Mais ouais.
Il s'est bourré aussi d'Ibrahim, c'est ce que j'ai entendu.
Au bout la one.
En tout cas, l'actualité aujourd'hui, en 2017.
Catégorie van. Catégorie, on va bien, on veut de là.
Et on vous encourage à découvrir cet album de Magid Cherfi, la catégorie reine, et à redécouvrir son livre chez Actes Sud, Ma part de Gaulois. Vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous a dit que Magid venait aujourd'hui.
Oui, quand je pense à vous, Magid, je pense à beaucoup de textes, à beaucoup de chansons, mais je pense surtout à une reprise, un texte fort, un hommage.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Après 5 ans d'absence, Zebda décide de reprendre ce texte de Brel en hommage à Jaurès. Pourquoi ce choix-là ?
Parce qu'on est, j'allais dire, on est dans un combat de toute façon de toute la vie qui est celui de la défense des ouvriers, des immigrés, des exclus, etc. Et donc dès qu'on chope un titre chez un artiste qui évoque cette misère, cette souffrance d'en bas, on se dit bon, il nous faut celle-là, il nous faut celle-ci.
Et justement, quand on a évoqué tout à l'heure le bruit, l'odeur, d'autres titres aussi, l'engagement est nécessairement co-substantiel à la musique.
Co-substantiel.
Pour nous,
je crois que ça va pas être possible.
Magie comprend.
J'ai pas une bécherelle avec moi, donc
nous avons fait lettres modernes, donc voilà.
Classique.
Continuons.
Classique.
On vous laisse.
On fait un autre jeu classique et moderne, on se débrouille.
On vous laisse entre gens sensibles.
Pour tout vous dire, le postulat de Zebda, ce que je n'ai jamais dit, c'est qu'avant qu'on fasse de la musique, on a posé un postulat politique. On va d'abord défendre des idées et pour la musique, on verra après.
C'est le manifeste.
Donc on est né dans ce postulat-là.
C'était motivé, quoi.
Oui, absolument.
C'est ça.
Et la musique, on l'a pensé qu'après.
Et motivé, c'était bien aussi.
Co-substantiellement.
Et donc tout part d'une idée, de ce postulat-là de départ, selon lequel l'engagement est important.
Excusez-moi, mais
bon, Et encore,
il est habillé.
C'est beaucoup plus drôle quand il est nu. Et justement, ça part de... Il y a des thématiques. Vous avez parlé du monde ouvrier, de la défense de l'opprimé, du plus faible, en gros.
Oui.
Vous, personnellement,
oui.
Qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui ?
Écoutez, de toute façon, on est devant ce pari absolument impossible marquer la fraternité. Et chacun d'entre nous se dit, tentons la fraternité, et on a l'impression, enfin en tout cas moi, d'aussi loin que je remonte, l'impossible façon pour l'établir, et on voit
Pourquoi ça serait impossible?
Ben parce que moi je m'attendais pas à ce que aujourd'hui, en 2017, il y ait 11, 12, 13 millions de personnes votant pour le Front National, et les quelques millions d'autres qui se disent, pourquoi pas? Et je me dis, mais on va où? Et donc, il y a cette espèce d'intolérance presque indicible qui est là partout et qui nous fait dire que, bon, on va vers la catastrophe.
Et ça vous désespère?
Oui, parce que. Parce que j'ai des mômes, qu'on a des enfants, et on se dit, mais qu'est-ce
une
qu'on...
Une vingtaine de gosses.
Une vingtaine de gosses.
50 000 balles pour toucher les allocations.
C'est moche. Et c'est beaucoup ça, en fait. C'est, mais quel est le monde qu'on leur propose, puisque, voilà, au lieu qu'il y ait cette espèce de... Ouais, de fraternité qui se met en place, le monde se métisse malgré lui. Mmh. Au lieu qu'on accompagne cette espèce de métissage, on le subit. Et donc, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des... Moi, j'ai jamais vu autant de mômes issus de l'immigration se réclamer de l'islamité, par exemple. Alors que j'ai pensé, il y a 30 ans, qu'on allait basculer dans une laïcité évidente. Eh ben, pas du tout.
Qu'est-ce qu'on n'a pas digéré, alors? Qu'est-ce qui n'a pas été digéré?
Parce que entre ce fameux discours de Chirac et la déchéance de la nationalité proposée par la gauche... vous avez le filet garni, quoi. Donc, gauche et droite nous amènent droit vers...
dans un mur.
Dans un mur, cette façon de dire, bon, écoutez, la France, au fond, c'est blanc, catholique et éternel. Et donc, on se dit, merde, je suis pas dans le panier. Quoi.
Et la République devient ça aussi.
Et la République devient ça, absolument.
Et on en revient à nos ancêtres, les Gaulois. Ouais, c'est-à-dire que tout ça, cette image-là dans l'éducation, dans ce qu'il y a dans les livres d'histoire aussi.
Ouais, c'est le blanc, tressé. Et donc il y a cette imagerie dans laquelle les mômes aujourd'hui se disent « Eh, mais on est français, ok, mais on n'est pas chez nous. Il y a un souci. »
Ouais, clairement. Clairement. Alors, co-substantiellement n'existe pas.
Non, j'ai dit co-substantiel.
J'ai compris.
Mais oui, si, ça existe.
Alors, co-substantiellement existe.
Non, mais c'est ce qu'elle a dit.
J'ai dit co-substantiel.
Elle a dit con.
J'ai pas dit l'adverbe. C'est pas l'adverbe que j'ai dit. Mais bon. Okay.
Voilà. Bon, mais moi, je cherche les mots quand je les connais pas. Je regarde dans le dictionnaire.
Mais c'est comme ça que la langue progresse, en même temps.
Voici l'humeur de Tom Villard.
Ah là là, mesdames et messieurs, en ce moment, c'est la fête des voisins. Enfin, il y en a eu vendredi dernier, il y en a aussi ce soir. C'est un peu comme le ramadan, ça bouge chaque année. Donc c'est la fête des voisins.
T'es rue des circoncis ici, hein, fais gaffe. Des kikis. Rue du kiki circoncis.
Très bien. Bon, en tout cas, d'aucuns diront que cette fête des voisins, c'est un moment très convivial. Enfin, surtout ceux qui n'ont pas d'amis. Et mais c'est vrai, on sort trois tables, deux chaises, un bol de sangria, deux quiches, trois olives, et puis c'est la fête des voisins. Enfin, ça doit être la moyenne. J'imagine la tronche de la fête des voisins chez Nagui. Ça doit être une soirée de l'ambassadeur. Hein. En entrée, carpaccio d'Otari. En plat, steak de girafe, dessert du dauphin aux fraises des bois, le tout ambiancé par un orchestre philharmonique. Alors que chez Daniel Morin... deux bouteilles de villageoise, un paquet de tuques, deux réserves et trois guignons de parassis avec une cassette d'Yvette Turner, et le tour est joué. En gros... La fête des voisins.
Convivialité.
Oui, c'est la convivialité. C'est la fête des voisins. Non, c'est vraiment un prétexte pour se prendre une murge à domicile sans avoir à reprendre la voiture derrière. Ça, c'est le gros avantage. Du coup, s'enclenchent des discussions très intéressantes autour du syndic, de la réfection de la cage d'escalier, du facteur qui se trompe de boîte aux lettres et du chien de la voisine qui casse les couilles à tout le monde. Mais surtout, parfois, il y a des moments gênants dans la fête des voisins. Parce que quand tu vis dans un immeuble, ça t'arrive de savoir ce que font tes voisins parce que ça résonne, parce que les fenêtres sont ouvertes, mais tu peux pas leur dire.
Le bruit. L'odeur.
Voilà, tu peux pas dire à ton voisin du dessous, alors, elles étaient bonnes les chipolatas hier soir? Au même titre que tu peux pas dire à ta voisine d'à côté, alors, elle était bonne la chipolata?
Non, mais
je vous jure, moi j'ai une voisine, je vous jure que c'est vrai. Son mec, a priori, il lui a. Si.
Non.
Ah si, si, mais en un claquement de doigts, elle est partie tout de suite dans les tours, comme chantait Johnny. Mais, hey, Nagui, vous me connaissez tous autour de cette table, je suis resté très calme.
Il voudrait bien dormir! Ça va bien! Il y a des gens qui voudraient bien dormir! Assez! Assez!
Non. Qu'est-ce que c'est drôle, ça?
Elle gueulait. Pierre, 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 toute la nuit. Du coup, tu la croises le lendemain à la fête des voisins. Salut, enchanté, je te présente mon mec. Ma Pierre, c'est ça? Non, moi, c'est Mathieu. Voilà, donc, bon, petit sentiment de malaise. Et encore, moi, je viens d'arriver dans cet immeuble. Avant, j'ai vécu pendant, dans mon précédent appartement 2 ans de travaux.
T'imagines des placos et des murs.
2 ans de travaux. Ils ont pété la cour pour refaire les canalisations, fait le ravalement, abattu un arbre, refait la toiture, poncé l'escalier et mis la fibre. Sans déconner, je me suis rendu compte que avant, ça devait pas être un immeuble, mais un échafaudage. Il y avait rien. Non, mais dans mes voisins aussi, j'ai le connard qui passe l'aspirateur à 8h du matin le dimanche. Ah, du coup, moi, je fais des machines à 1h du matin le mardi. Ah, j'en ai rien à foutre. Ah, puis ma machine, elle sort à 1600 tours minute. C'est pas une machine à laver, c'est un dragster. Je prends ça dans les dents. Non, et j'ai une autre voisine aussi, elle joue du piano toute la journée. Ça fait un an que j'habite dans cet appart, ça fait un an que j'entends le même morceau.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est bien.
Elle joue bien.
Ça, c'est bien. Non, le problème, c'est que ça, c'est l'original. Moi, en vrai, tous les après-midi, j'entends ça. Je te jure, c'est vrai. Tous les jours, le même air depuis un an. Donc si vous avez le numéro d'André Manoukian pour lequel il y apprenne 2-3 trucs un peu différents, ça m'arrangerait. En tout cas, bonne fête des voisins à tous.
Merci, Tabula.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Notre invité est Maggie Cherfi. Son album, son nouvel album, contient aussi ce joli titre.
Dans ma petite Amazonie, elles ont dans les oreilles un Sony. Les filles aux pieds une chaîne. Oh, elles en pincent pour le hip-hop, qui les traite un peu de salope. Pour qui voulez-vous qu'on les prenne? Beethoven est pas dans les envies.
On en est où de l'histoire vraie, de l'histoire inventée, de la part de romans dans l'écriture? Tout ce que vous racontez dans l'album et dans vos textes, c'est du vécu forcément?
Alors c'est en tout cas très ressemblant. Alors j'ai fait gaffe évidemment parce que... Ben là, alors je vous parle, je suis mis en examen pour diffamation.
Merci d'être venu dans la bande originale ce matin.
À l'égard de qui?
Ouais. J'ai raté un truc.
Parce que j'ai fait des portraits peu flatteurs des uns et des autres, de ses amis d'enfance. Et,
mais non.
Il y en a un qui vous attaque.
Et j'ai laissé traîner un ou deux prénoms en me disant, bon, après 35 ans... Et
c'est fou.
Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. C'est quelle était votre question?
Mille personnes peuvent le porter. Donc,
bah oui, c'est ça.
Tu as un argument de défense, ça.
Ouais,
c'est bon, pas, alors voilà. C'est pas un nom comme...
Sauf quand tu t'appelles Nagui.
Vous savez ce que ça veut dire, Nagui?
Salaud, tyran.
Tu sais ce que ça veut dire?
Oui, c'est.
Écoute, vous savez, pardon.
J'ai plus. Non, avec le tu, je me tue.
Celui qui échappe au danger.
Ah, c'est lui.
Ah, moi, c'est pas ce que
c'est lui. Ah, ouais.
Ah, c'est tout lui.
Ça, c'est pas ça.
Ouais, c'était pas
moi, j'avais pas ça.
Ah, oui, c'est vrai.
Mon papa, mais avec ta permission, je vais garder la version de mon papa pour moi.
D'accord. Okay. Bon, ok. Et donc voilà, donc c'est un roman autobiographique, c'est une romance vraie, c'est. Voilà, donc tout est très ressemblant. Je dirais que, en ce qui concerne mes parents, c'est assez proche. C'est vraiment très proche. Puis après, voilà, j'ai commencé.
C'est de la caricature, vous grossissez le trait,
transfigurez.
Non, c'est
moi
pas
je
de
dirais.
La caricature, oui.
Transfigure la réalité.
Ce serait plutôt ça.
Mais alors comment? Mais alors c'est la première fois que j'entends un chanteur mis en examen pour des textes, parce qu'il y a pas de différence. Enfin, il y a rien qui m'a choqué sur l'album. Mais
pardon, je parlais du bouquin. Pardon.
Ah pardon, c'est dans le livre.
Je pensais que vous parliez de la romance, du roman.
D'accord.
Non. Du coup, là, c'est pareil. C'est une espèce de ressemblance très proche. D'accord. Sur l'album.
On va évoquer votre parcours en musique. Et alors, autant il y a des invités par moment qui nous envoient, mais rien, mais pas une seule musique, autant nous avons été inondés sous la CD Tech de Majid. C'est-à-dire qu'on lui dit, en 81, t'écoutais quoi? Alors j'écoutais, voici 25 titres, vous choisissez ce que vous voulez, voilà ce que j'ai écouté. Alors nous, on a choisi parmi ce que
vous voulez. J'ai voulu vous laisser le choix.
Ah ben vous nous l'avez laissé, on l'a pris. Bob Marley par exemple, c'est ce qu'on a choisi en 81.
All pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I
Vous avez été en fait l'un des premiers à avoir le bac dans la cité,
oui,
c'est ça?
Absolument.
Et c'est de là né le regard suspicieux du Fayot, de t'es qui toi, t'es...
Ouais, je t'aime pas parce que t'as le bac, c'est pas possible. Donc, j'allais dire entre guillemets, il a dû se faire enculer pour l'avoir.
Punaise.
Sa mère a dû se donner à quelques proviseurs.
Si c'est entre guillemets, ça va.
Et c'est ce qui se disait.
C'est d'une violence, oui.
Parce que. Oui, c'était.
Et puis tu nous trahis, quoi. C'est-à-dire que
oui, t'es pas trahi, t'es pas comme nous. C'est de l'autre côté.
T'es pas comme nous.
Ouais.
Bob Marley, alors, quel est c'est l'une des premières découvertes musicales.
Marley, ce qui était incroyable pour moi, c'est qu'au lycée, j'étais qu'avec des blancs. Puisque je me retrouve, on était un ou deux rebeux dans.
On rappelle pour anecdote que Zebda veut dire beurre aussi en arabe, c'est-à-dire vous avez fait
absolument
un jeu de mots entre le
beurre à tartiner.
Voilà, le beurre et le beurre à tartiner.
Zebda, ouais. Et donc je me retrouve au lycée avec 500 blondes. Putain, je me dis, je suis en France. À 14 ans.
Je suis au paradis. On est dans la chambre de Nagui.
Du bruit.
Je suis avec donc. Des blondes qui écoutent Marley, et quand je suis dans la cité, les mômes n'écoutent que Marley. Et donc ce mec-là, il fait le lien entre un lycée, voilà, de, entre guillemets, de blancs, et dans mon quartier de 90% d'Algériens, c'était Bob Marley, et il faisait la jointure.
En 1985, c'est donc la création de Zebda, et à ce moment-là... J'adore ce type de Dao, je trouve, la mélodie, l'élégance de Dao, l'écriture, mais je suis presque, surpris que vous soyez attiré par cette musique pop,
ouais,
pop rock.
Parce que la légende veut qu'on aime que le rock'n'roll. Et moi, j'aimais la vieille chanson française, j'aimais tout ce qui était tricolore et gaulois, j'aimais des vieux chanteurs des années 40, comme Mouloudi par exemple.
Formidable.
Et alors à 18 ans, je t'écoute, t'es un blaireau. Et donc on fait croire qu'on aime des roues.
Comment vous l'avez découvert? Parce que Mouloudi, c'est pas. Les premiers albums de Mouloudi, c'est pas. On l'entend pas beaucoup à la radio, le coquelicot. Non, mais je veux dire,
parce que ma
mère... peut-être le déserteur qu'on entendait beaucoup, mais enfin, il y a plein d'autres chansons sublimes qu'on n'entendait pas beaucoup.
Ma mère qui voulait qu'on soit étoile parmi les étoiles et érudit parmi les érudits nous envoie, mes frères et moi, chez l'institutrice, chez l'épicière, chez le facteur, chez tous les adultes qu'elle croisait, elle leur disait prenez-les, il faut absolument qu'ils s'en sortent. Et j'ai vécu finalement beaucoup plus chez des blancs, entre guillemets, que dans ma propre rue. Elle était là, ma vérité à moi. Et donc ces gens-là écoutaient de la chanson française. Et puis Brassens, il est entré comme ça aussi. Et je suis entré dans le patrimoine français. Et Dao, donc. Dao, c'est plus tard quand même.
Là, on est en 85.
Je sais plus.
85. Pour la naissance de Zebda.
Ouais, début des années 80, ouais.
Et alors, il faut resituer quand même qu'à l'époque, vous étiez dans une association et vous avez besoin de retrouver des musiciens. Vous cherchez des musiciens, mais plus pour communiquer avec la SOS que pour faire un groupe. Ça s'est passé comment, Zebda?
En fait, moi, on était dans des ateliers de vidéo, de théâtre, etc. Et tout à coup, dans le scénar, il y a un groupe de rock. Moi, je suis au lycée et je vois des mecs qui jouent. Et je leur demande de venir faire les faux musiciens dans un atelier vidéo. Et comme ils se font chier parce que le temps d'attendre Mouloud et Areski qui ont rendez-vous à 2h et qui arriveront à 18h.
Donnez pas des noms parce qu'on va avoir des problèmes de procès.
Oui, ouais, justement, j'ai donné le faux nom. Mais là, je me méfie.
C'est Mouloud.
Des faux noms. Et donc, il y a des heures d'attente. Ils finissent par venir avec leurs amplis. Ils jouent. Ils mettent le feu et Zebda est comme ça.
Et c'est Mousse et c'est Hakim.
Et c'est Mousse et Hakim qui s'agglomèrent. Je sais pas si ça existe, s'agglomèrent. J'ai peur maintenant.
Ça marche. On va l'essence poétique.
Consubstantiellement, ça passe, oui. En 1997-99, fin des années 90, vous écoutiez. Cet cette musique de DJ, cette musique de son, de production, plus que d'écriture de texte.
Parce que là, les paroles,
c'est leur mérite, c'est la prod. Ouais,
c'est vraiment la prod, et tout le monde est fou de ça autour de moi, et je me rends compte que ça m'envoûte, voilà. Cette chanson m'a envoûté.
Et c'était exactement au même moment qu'il y avait... Ah oui, hein.
C'était au même moment, oui, c'est
vrai, pareil, fin des années 90. Eh ouais. Et elle traverse les générations, hein, je vous assure, cette chanson, hein, Tomber la chemise. Mais je sais que vous l'aimez pas, enfin, que vous avez dit tout à l'heure, c'est comme un boulet. Mais par exemple, sur la tournée, vous la chanterez pas?
Sur ma tournée perso, je pense pas. Ou alors avec un violoncelle et un piano.
Ce serait marrant, ça, ouais.
Et avec un tempo ralenti. Ouais.
Tordre le cou un tout petit peu. Aux arrangements.
Et je le fais d'ailleurs pour des chansons des Zebda. Dans ma tournée en solo, je prends tout ce qui est péchu, je mets un violoncelle, un piano.
Est-ce que Zebda, c'est définitivement.
Je me venge.
Est-ce que c'est définitivement arrêté, Zebda?
À moins d'une idée extraordinaire, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire.
Mais par exemple, nous avons reçu NTM qui se reforme pour fêter les 30 ans. Est-ce que l'idée de reformer Zebda justement pour une date anniversaire, pour un concert exceptionnel, ou comme ils vont le faire aussi l'année prochaine...
Pour les 30 ans d'NTM. Pour
l'année prochaine, ils vont le faire pour le Secours Populaire, le faire pour une association caritative, pour récolter des fonds, juste pour... Et pour mettre le feu.
Un live, c'est pas impossible. Pour un live, oui. Pour un album, ça me paraît plus délicat.
D'accord. Nous avons demandé à Natacha Lillo de venir à ce micro. Bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre patience. Merci de venir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris Diderot. Vous avez publié Images et représentations du genre en migration. C'était chez Publibook.com, l'éditeur. Et en 2009, vous avez publié Italien, espagnol et portugais en France au XXe siècle, les regards croisés. Moi, je voulais revenir sur l'expression nos ancêtres, les Gaulois. D'abord, est-ce que nos ancêtres sont... véritablement les Gaulois, est-ce qu'il reste encore des descendants des Gaulois?
Alors en fait, les Gaulois, c'est une construction. C'est une construction de l'école de Jules Ferry, donc 1881, 82, 83. C'est aussi le moment où on commence la colonisation en Afrique, en parallèle. Ferry, il a fait beaucoup de choses pour l'école, mais il a été un bon colonisateur. Et donc en fait, les Gaulois, c'est pour créer une entité, puisque dans les Gaulois, à l'époque des Gaulois, il y avait des Vénètes en Bretagne, il y avait des Arvernes en Auvergne, des Burgondes, etc. Et en fait, l'idée de Gaulois, c'était déjà faire un pays. Et après, de toute façon, il y a eu l'arrivée des Romains. Donc après, on va devenir des Gallo-Romains, donc des Gaulois-Romains. Donc bon, c'est une fiction.
C'est une roman fiction. National,
voilà, c'est tout à fait le roman national de Lavis, justement, fin du 19e siècle, avec la Révolution française, avec Charles Martel qui repousse les Arabes à Poitiers. Enfin voilà, c'est un roman national.
Bah oui. Et puis les Vikings en Normandie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est... Tout ne s'est pas fait que du sud, d'ailleurs, ça s'est fait aussi du nord.
De toute façon, la France, c'est un Finistère. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui vont venir depuis l'est de l'Europe, depuis les steppes, depuis la Mongolie, etc., à un moment, tout le monde va arriver en France.
Finistère, étymologiquement, c'est la fin de la Terre, c'est
la
là
fin
où
de
ça
la
s'arrête.
Terre. Voilà, ouais. C'est après, on peut pas. Enfin, si, après, on monte dans un bateau, on part aux États-Unis. Mais sinon, on vient et on reste ici. Et après, en termes de. À partir du moment où il y a la révolution industrielle qui est importante en France, on est un Finistère. Et on a aussi un attrait parce qu'il y a du travail.
Si on devait, est-ce que c'est possible d'ailleurs de quantifier sur les 66 millions de Français recensés ceux qui sont, j'allais dire, issus de l'immigration, mais de,
alors, il y en a, j'ai vérifié les chiffres hier soir, selon l'INSEE, il y en a, là en ce moment, il y a 7,3 millions de personnes qui ont au moins un parent étranger.
Mais même si vous remontez aux Visigoths, aux Gallo-Romains, tout ça, non, c'est ça ma question.
Non, ça c'est impossible. De toute façon, la France, c'est une terre de mélange. Déjà, à la Révolution française, vous avez des étrangers, Benjamin Franklin, qui est américain, et député, je crois que c'est à la Constituante, parce qu'il est étranger. Durant la Commune de Paris, à Paris, donc 1870-71, à Paris, on a déjà beaucoup d'Italiens qui travaillent dans le bâtiment avec les réformes Haussmann. On a des Belges, parce que la première immigration importante en France du 19e siècle, ce sont les Belges. On a des Italiens, on a des Belges, on a des Polonais qui, eux, sont des exilés politiques. Et tous ces gens-là vont participer à la Commune.
J'aime
avec
la manière dont... Alors, on a en stock. On a des Polonais, on a des Belges, on a des Italiens. Il me reste deux, trois. Alors là, prenez-les parce que là, c'est bientôt.
Ça
fini.
Pas, ça non,
c'est intéressant sur les Belges. Moi, je savais pas, par exemple.
Bah voilà,
les Belges,
parce que personne n'en. Oui, maintenant, il y a Charline qui est revenue, mais. Avant, on en a eu.
Il y a Guillaume Gouiz, on en a. Non, mais juste pour bien comprendre, est-ce que les phénomènes de migratoires suivent finalement toujours. Ah, tu veux me banner?
J'ai souri.
J'ai dérapé.
Je souris tout le temps.
Est-ce qu'ils suivent toujours le même cycle? C'est-à-dire, il y a une logique à ce que des habitants d'un pays viennent en France. Une logique est-elle économique, est-elle politique, est-elle industrielle ou belliqueuse? Et ensuite, cette intégration prend. Moi, j'ai souvent croisé des amis italiens qui disaient, mais on se faisait insulter de sale rital.
Portugais
dans les années XXY, il y a tellement longtemps, qu'on en a oublié que maintenant, c'est chic d'être italien et que c'est plus du tout insultant. Ma question, est-ce que c'est un cycle normal d'avoir une période d'immigration, puis une période de racisme ordinaire pour passer après une intégration totale?
C'est un cycle normal, mais c'est un cycle normal qui pédale depuis les années 1970. Avec la crise majeure. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, ça se passait très bien, il y avait besoin de gens pour reconstruire, il y a quand même eu plus d'un million de morts, des milliers de blessés de la Première Guerre mondiale. Donc, dans l'entre-deux-guerres, les années 20, ça se passe bien. En 27, ils vont faire la loi la plus libérale sur la naturalisation. C'était simplement 3 ans de résidence, si on pouvait demander. Et arrive la crise de 29 aux États-Unis, ça se propage en France vers 31. Et à partir de ce moment-là, il y a des gros mouvements xénophobes, etc. Mais c'est à la libération, pareil, il y a besoin de reconstruction, il y a du travail. Et donc les enfants de ces Polonais, de ces Italiens, de ces Espagnols qui étaient là,
qui viennent construire la France.
Voilà, ils vont bosser. Ouais. Et du coup, ça se passe très bien. Ils se marient avec des Françaises, etc.
Donc la xénophobie est liée au problème économique, à la crise.
La religion, voilà, ça, la religion. Oui, mais la religion, il y a des choses paradoxales. C'est-à-dire que la France, il y a la loi séparation de l'Église et de l'État depuis 1905. Dans des rapports de préfets des années 30, moi j'en ai vu pour les Espagnols en banlieue parisienne, mais des collègues l'ont vu pour les Polonais, on les jugeait trop catholiques. Les Polonais venaient carrément avec leur curé, les Italiens aussi souvent.
Oui, mais c'est autre chose d'être trop catholique que d'être pas du tout catholique. Oui. C'est-à-dire que le dimanche matin, ils prenaient tous la direction de l'église. Les vagues d'immigration récentes, la problématique, c'est que le culte n'est pas le même. Et du coup, c'est aussi encore plus effrayant quand on parle de xénophobie et de la peur de l'autre et de l'ailleurs, en fait.
Oui, effectivement. Mais ça, c'est pareil. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très instrumentalisé, notamment par le Front National, par une partie de la droite aussi. Parce que je vous dis, y compris ça, en gros, y compris les Polonais, les Italiens, ils étaient traités de bouffeurs de curés, de QBI.
Est-ce que finalement on ne crée pas aussi, en stigmatisant les autres religions, ou les religions en règle générale, quelles qu'elles soient, en stigmatisant tel ou tel immigré, est-ce que ça ne fait pas naître le communautarisme, le repli aussi qu'ils peuvent faire, en n'ayant pas spécialement envie aussi de s'intégrer, puisque la question aussi se pose dans votre livre, Majid, avec ceux qui clairement voulaient être entre eux, et ils parlaient des Français comme étant des étrangers autour d'eux.
Oui, absolument. D'ailleurs, on dit, ouais, mais ils font du communautarisme. Pas du tout. C'est pas des gens qui ont choisi de vivre ensemble, mais ils se sont agglutinés à cause de l'exclusion qu'ils subissaient.
Par rapport à ce qu'on disent les médias, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de communautarisme dans ce pays, parce qu'en fait, il n'y a pas des ghettos purement ethniques. C'est-à-dire que.
Je parle pas de ghetto, je parle d'un comportement qui peut être, on se souvient tous d'avoir entendu la Marseillaise siffler au Stade de France, et on peut se dire que c'est pas très civique. On peut croiser dans des matchs de foot des maillots qui sont des maillots d'autres pays, et tant mieux. Mais de renvoyer en permanence ces racines, alors que ce sont des personnes qui peut-être sont issues d'une deuxième génération d'immigration et qui n'ont jamais vécu d'ailleurs dans le pays dont ils revendiquent le drapeau ou le maillot, c'est une manière aussi de se dire, je suis différent et je cultive cette différence. ce qui n'était pas le cas. Enfin, moi, j'ai pas grandi comme ça. On est du même mois de novembre et pratiquement de la même année, Majid et moi. Moi, j'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi aussi avec. Il faut apprendre la Marseillaise. On est dans un pays qui nous
accueille. Mais il est où le souci d'avoir un maillot italien pour supporter l'Italie? Je veux dire, est-ce que ça serait un problème de ce point de vue-là? C'est ça la question que je pose.
Le souci est d'aller à un match de l'équipe de France qui joue contre la Scandinavie avec un maillot qui est un maillot égyptien, qui est un maillot marocain, algérien, africain, peu importe.
Mais je pense que ça, c'est aussi c'est ce que la société renvoie aux jeunes et ça ils tissent un peu ce communautarisme. Mais quand même, ce qu'il faut remarquer, et ça c'est quelque chose sur le long terme qui reste vrai, en France, on est à 27, j'ai vérifié aussi, on est à 27% de mariages mixtes en ce moment. Super. Et ça fait longtemps. Là, je parle de mariage, stricto sensu. Je ne parle pas de toutes les unions libres, des pacsés, etc.
Moi, je crois que vous avez trop de pudeur. Il ne faut pas hésiter à dire oui, puisqu'on ne veut pas de moi, je vais affirmer une algérianité mythique. Mais c'est vrai que ça existe. D'ailleurs, quand vous voyez ces mômes arborer, alors quand on arbore un drapeau portugais, italien, espagnol, pas de problème, dès qu'il est algérien, ils n'aiment pas la France.
C'est ça.
Et puisque nous n'aimons pas la France, et ben nous arborerons l'algérien.
Et je vais le cultiver. Puisque tu m'agresses avec ça, je vais te le remontrer.
Bah, tu m'aimes pas, je t'aime pas, en fait. Tu m'aimes pas, je t'aime pas.
Oui, c'est basique. Donc les deux sous, la xénophobie, c'est... comme le repli
mais
sur soi.
Mais après, c'est quand même des cas que je trouve vraiment à la marge, parce que c'est ne pas, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut reprocher aux médias pendant la campagne présidentielle, c'est de ne pas montrer toutes ces personnes qui sont françaises, qui revendiquent le fait d'être françaises, et qui revendiquent aussi le fait d'avoir un héritage culturel et qu'ils n'ont pas envie d'abandonner. Moi, je me posais la question, Majid, quand vous parliez de votre mère qui vous envoyait comme ça vers l'institutrice, le facteur, etc., pour apprendre, pour découvrir. Ouais. Est-ce que vous avez réussi dans cette envie d'assimilation et d'intégration parfaite maternelle, est-ce que vous avez réussi à garder quelque chose de vos origines à vous, dans la langue, dans la chanson? On parlait de la musique tout à l'heure.
À part le nez, on est d'accord.
Non, mais voilà, parce que je trouve qu'il y a des générations aussi comme ça qu'on a tellement voulu intégrer qu'à un moment, elles ont aussi coupé les ponts avec ses propres origines.
Pardon, juste pour être clair, hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire
tout à l'heure.
Je crois que moi, quand j'y pense, je me dis, j'ai d'Algérien la mélancolie de ma mère, la nostalgie de mon père. Puis tout le reste, c'est, j'allais dire, gaulois, quoi. Mais il y a une algérienneté qui traîne.
Une dernière question avant de vous remercier d'être venu à ce micro, Natacha. Est-ce qu'il y a des pays où ça marche mieux, réussit mieux qu'en France? Ou est-ce que c'est la France qui a un souci avec son passé colonial, avec sa manière de stigmatiser telle ou telle communauté, avec sa laïcité?
À bien y réfléchir, c'est à peu près, je ne sais pas si vous voyez les mouvements, les formations politiques xénophobes au pays. Bas, en Suède, au Danemark, qui sont
en Italie, à Rome,
voilà, qui sont des partis, oui, en Hongrie, où ils en ont pas en plus, mais des étrangers. Donc non, effectivement, c'est pas du tout une spécificité française. Et moi, personnellement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça.
Super. Bah, on va venir sur cette note positive. Merci, Natacha. Daniel Morin.
Ah, quoi?
On se rend bien compte que l'avenir de la France est au métissage. Je viens de lire, Natacha. C'est clair, on s'en sort bien. C'est comme ça que s'est construite la France. C'est comme ça qu'elle avancera. La France multiple, multicolore, c'est le mélange. Le partage, la tolérance, le respect des origines des uns et des autres, c'est
Stop
ça qui fait...
Taisez-vous, fermez-la. Non mais je suis sérieux, physiquement, fermez-la, monsieur Guy. Ne l'ouvrez plus, s'il vous plaît, par pitié, mais collez vos lèvres. Nom de Dieu, je me sens sale rien qu'en vous écoutant. Et Dieu sait si j'ai entendu des trucs dégueulasses. Déjà, je me sentais pas complètement clean après la saillie frontale que m'a imposée Leïla Françoise Cadour, consubstantielle Boudadi. Mais là... vous m'avez souillé comme une attachée de presse.
Oh.
Tout comme vous souillez les oreilles de nos auditeurs depuis bientôt 3 ans. Non mais merde, je m'appelle comment? Daniel Morin. Ça, c'est français. Je suis de quelle couleur?
Rouge.
Oui. Ça, c'est au réveil. C'est au réveil après mon petit déjeuner avec Patrick Cohen. Mais sinon, je suis blanc. En même temps, je m'en porte peut-être un peu trop. C'est un problème, le métissage, la mixité. C'est peut-être une bonne chose. Alors, dans le doute, je vais demander son avis à un expert, expert du multiculturalisme. Bonjour, Maréchal Ganache. Maréchal, le métissage, la mixité, ça vous inspire quoi?
Dans les cocktails, c'est parfait.
Non, mais pas les cocktails, pas dans la vie de la planète, pour l'homme, quoi. La mixité, là, ça vous inspire quoi?
Le dégoût.
Vous pouvez développer?
Non. Non, il n'est point nécessaire de développer une thèse quand elle est l'évidence même. Tout cela serait redondant.
Mais sans m'exciter, le monde ne serait pas, je ne sais pas, un peu terne.
Négatif. Une race pure produit des éléments purs. Dans ma famille, ma sœur aînée, qui a épousé mon petit frère, est maman d'un enfant d'une pureté cristalline et d'une intelligence foudroyante. L'enfant est tellement brillant qu'il est devenu une célébrité.
C'est qui ce génie ?
Cyril Hanouna.
Ah, on parle pur génie, là. Merci, maréchal. Oui, monsieur Guy, l'exemple du maréchal est frappant. La pureté et la non-mixité, il n'y a que c'est vrai. Sauf pour les cocktails, vous avez bien entendu. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci d'aller me rappeler à nous. Nadine, j'ai fait notre invité jusqu'à midi.
Merci. Sur France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrou-Boudali.
Bonjour à tous.
Sam Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Bravo. Et notre invité est Majid Cherfi.
Bonjour.
La catégorie RAN. La catégorie qui va bien. On veut de la catégorie RAN. La catégorie qui est pas la plus pourrie.
Catégorie Reine, son nouvel album avec entre autres.
Les hommes quand ils se ressemblent, jamais ils ne marchent ensemble. Les hommes quand ils se ressemblent, ils s'étranglent.
Et ce duo avec Olivia Ruiz.
Les gens.
De maille en guise de représailles ont toujours une occasion pour faire des croix dans des cases.
Parole, musique, production, vous avez tout fait, Majid ?
Non, pour la musique, j'ai donc des collègues
partagés.
Voilà, partagés, donc des amis toulousains essentiellement.
Vous ne jouez d'aucun instrument ?
Non, d'aucun.
Est-ce que pour
mon grand regret.
Est-ce que pour composer, oui, mais enfin ça se travaille, ça s'apprend. Alors, vous avez même pas essayé.
Non, j'ai quasi rien.
Le mec il fait si non, ça veut dire qu'il a commencé que c'était tellement pourri qu'il préfère dire non. J'ai jamais essayé.
Oui, j'ai acheté une guitare, mais sans outil, c'est vrai.
Je rappelle que notre invité est mis en examen, qui s'appelle Bœuf en Daube.
Qu'il est sensible et que contre quelques poèmes, parfois, il a vu des pédoncules.
Les clichés, merde.
Et ça lui a donné le bac.
À 5.
Et qu'il est en tournée avec cet album catégorie Reine. Il y aura le passage d'Agen, c'était au Festival Rock d'Alibi, ça sera la semaine prochaine. Ensuite, Bobigny, Angoulême, Bordeaux, Saint-Chamond. On va mettre toutes ces dates, évidemment, sur le site de l'émission. Le 3 juin, Bobigny. Et avant ça, la date parisienne, ça sera ce concert, puisque ça sera le jeudi 1er juin.
Sur FIP.
Voilà, exactement. Sur FIP, mais pendant 2 heures, quand même.
Ouais.
faut assurer, il faut faire de la musique avec beaucoup. Donc c'est Majid Cherfi and Friends, quoi. C'est le côté Pavarotti qui réunit
Flora
des potes.
Flora Marché, ouais. Alexis HK, Christian Olivier.
Ex-Tetraide, pour resituer.
Ex-Tetraide, absolument.
Thomas Fersen.
Donc voilà, on va essayer d'être à la fois ensoleillé et dans le sens des choses.
Ensoleillé et avec du sens, c'est tout l'opposé. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Je me barre.
Bah, tu peux pas dire le contraire, c'est vrai.
Tous les jours.
T'es terne, c'est pas grave.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. C'est pas ce studio. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi... de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur parfois. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire. France Inter. Une saga quotidienne avec le super-héros Patrick Cohen, le délinquant trapenard, Nagui, l'ancien tolard, Laure Adler, la dealeuse de Radio France, mais aussi Laurence, la directrice épileptique, Mathieu, le patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin,
en apparence.
Aujourd'hui, 26 mai 2017, John Wayne aurait eu 110 ans. Toute la grille de France Inter s'est mobilisée pour célébrer l'événement. Ça fait de l'effet, John Wayne, hein, 110 ans. Laurence, la directrice, fait son petit topo.
Bon, les amis, aujourd'hui, on rend hommage à John Wayne. Hein, on fait une entête spéciale western. Je compte sur vous. Hi-ha!
C'est tout, Laurence. À la matinale, Patrick Cohen, qui est connu pour être le shérif de la station, reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Alors, tu regrettes d'avoir rejoint Calamity Le Pen?
Ben, ouais.
T'as cru quoi? T'allais devenir Marshall avec elle? Ben, ouais. Dis-moi, Nicolas.
Ouais.
Tu serais pas un peu con? Bah, ouais. Après cette percutante interview pleine de tension, l'antenne continue avec Boomerang, l'émission orbitale d'Augustin Trapenard, le croque-mort de Radio France. Pour l'occasion, il reçoit un coyote. Aujourd'hui, je reçois un grand personnage du Far West, souvent synonyme de mort et de désert. Il est venu nous voir dans sa traditionnelle fourrure beige. Bonjour, Coyote.
Aouh !
Coyote, que pensez-vous de l'industrie du cinéma ? Vous pensez qu'elle a fait plus de tort que de bien ?
Aouh !
C'est dû à quoi, selon vous ?
Aouh !
Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a à voir là-dedans ?
Aouh !
Je comprends. Merci pour ce témoignage, Coyote.
De rien.
Que du bon, que du très bon dans cette spéciale western. La parole est maintenant à la bande originale de Nagui, le patron de Saloon. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, mon invité est Patrick Dalton Balkany pour le plus grand bandit de l'Ouest parisien. Faites du bruit! Patrick Dalton, bonjour.
Salut.
Alors, comment devient-on le plus grand bandit de l'Ouest parisien?
On se fait pas avoir. Il y a des affiches de moi, des affiches recherche mort ou vif dans tout le pays. Personne n'arrive à m'attraper. Je suis le meilleur.
Vous avez des idoles, vous avez des références?
Oui, quelques-unes.
Le boss, Charlie Billy the Kid Pasqua et Dominique Pat Garrett Strauss-Kahn, le tireur le plus rapide de l'Ouest. La bande originale revient juste après. M6 Solar, le nouveau western. On est ensemble jusqu'à midi et demi avec Patrick Dalton. Balkany, faites du bruit! Quelle énergie!
Ah, c'est pas, ah, non, c'est fini.
Quelle énergie! Attendez, c'est les 110 ans de John Wayne. Fin ça de cette fait... journée avec l'or bleu de Laura Adler. Ce soir, l'or reçoit un cactus. Bonsoir, bienvenue dans l'or bleu, mon invité du soir. Un cactus. Bonsoir, cactus. Cactus, le vent du désert qui souffle sans fin sur vos épines, c'est un peu la parabole d'un monde qu'on a retrouvé, d'un monde qui a retrouvé ses racines, mais qui a subi la violence de l'impalpable sans pouvoir rien y faire, non? Ok, je respecte ce silence, je prends ça pour un oui. Demain, dans l'heure bleue, je recevrai un grille-pain. Bonsoir. le niveau du culture absurde, j'adore. Quelle radio fantastique, mes amis. Une fois encore, le thème a été respecté à la lettre. Tout le monde y a mis du sien. Tout le monde a été brillant. Bref, à Radio France, en ce 26 mai, jour du 71e anniversaire de l'exécution du docteur Petiot. La perfection est peut-être au rendez-vous. Et pourtant, tout ça, c'est juste une journée ordinaire, mais coexistentielle à France Inter.
Consubstantielle.
Moi aussi, j'invente des mots.
Oh, le tien, il existe.
C'est vrai. Il faut bien qu'il soit vrai ici dans cette émission.
Merci Daniel Morin. Puisqu'il y a eu quelques événements politiques dans notre beau pays, puisqu'il va y avoir les législatives qui vont arriver, puisque vous étiez motivé, que vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que le point de départ d'ailleurs de Zebda, c'était aussi d'agir presque politiquement dans un premier temps avant de se demander quelle mélodie ou quelle ambiance mettre dans une salle de concert. Comment vous la voyez, toute notre belle France, là, en ce moment? Vous, quel est votre point de vue? Vous avez envie de remonter les manches de votre chemise, aller mettre les mains dans le cambouis, redevenir motivé, vous présenter en 76e position sur une liste pour être non éligible? 67e? C'est ce que vous aviez fait.
Oui, c'est vrai. Mais alors personnellement, moi, je m'éloigne lentement mais sûrement de toutes ces choses-là. Je suis vraiment désabusé. Et bon, pour avoir longtemps cru en une gauche de pouvoir, en tout cas, et on a cette espèce de fatalité que dès que la gauche est au pouvoir, il faut qu'elle vire à droite tout le temps. Et donc on se dit, bon, dites-nous le franchement, si on peut pas être à la fois au pouvoir et garder des éléments gauchisants, qu'on le sache.
Bah, c'est ce que peut-être ce que cherche à faire Emmanuel Macron, c'est d'avoir des éléments gauchisants au milieu d'éléments de droite. Oui, est-ce que la France est forcément totalement de droite, totalement de gauche?
Je dirais pas ça. Je dirais qu'elle est perdue. On sait plus où on veut aller, et on a un peu le sentiment que les gens, à défaut d'une idée crédible ou d'idéologie, tentent le hasard. Un peu comme si Macron était un trèfle à quatre feuilles et Marine Le Pen un fer à cheval. Tentons le coup de bol, quoi. J'ai ce sentiment-là. Je vous laisse quoi, mon cher?
Oui, ça me laisse quoi, parce que vous étiez quand même...
De temps en temps, il fait une micro-sieste, là.
Non, parce que vous étiez engagé. Oui. Vous étiez engagé, et ça m'étonne que vous soyez totalement désengagé. Désabusé, peut-être, mais désengagé, oui, ça m'étonne.
Petit à petit, de plus en plus désengagé. Alors, je vous parle à titre perso. Hein, je ne parle pas pour le groupe, parce qu'il y a un moment où on est comme ça un peu englouti dans un collectif.
Et puis motivé était un mouvement, c'est ça.
Oui, c'était un mouvement, à la fois un mouvement politique, à la fois un groupe de musique, un état d'esprit.
Qui serait proche de quoi? Des Insoumis? Qui serait proche de Nuit Debout? Qui serait proche de...
Ouais, absolument, ouais.
De ces valeurs-là.
De tout ça, ouais.
Dieu que c'est pas de la tarte d'être chez soi sur la carte, et pas sûr qu'on trouve ailleurs un monde qui soit meilleur.
Un extrait de nouvel album catégorie Reine de Majid Cherfi. Il sera en tournée partout en France. Les dates sont sur, évidemment, la page Facebook de la bande originale. Et je rappelle ce concert le 1er juin au studio 105 de la Maison de la Radio. C'est un concert qui sera diffusé ensuite sur FIP. Et le tout est présenté par Stéphanie Daniel. Mais d'abord présenté par Leïla Kadour-Boudadi, le brouillon de culture pour Majid sur mesure.
Majid, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible.
J'ai appris cette chanson, ça va pas être possible, sur la discrimination ordinaire, parce que on l'a retrouvée dans une anthologie de textes sur le pacte républicain publié par l'Éducation nationale, Majid Cherfi. Un texte qui côtoie des textes de Montesquieu, d'Henri IV. Est-ce que c'est pas finalement ça la plus belle des reconnaissances dans une certaine mesure?
Écoutez, ça fait chaud au cœur. Après, quant à l'utilité de tout ça, bon, je crois que ça nous échappe un peu.
Ben c'est la transmission.
Et je dirais peut-être, à force de voir, moi, j'ai un peu eu cette expérience de croire que avec les mots, on pouvait changer, ou les chansons, changer les chansons. On finit par...
Bah là, vous avez une professeure de français qui interroge quelqu'un qui voulait faire cagne, lettres modernes, et vous vous retrouvez comme texte étudié dans l'enseignement. Oui. C'est un aboutissement. En attendant qu'il y ait une maternelle, Majid Cherfi.
Du bon au cœur, en tout cas.
Voilà.
Du bon au cœur. Okay. Et dans ces cas-là, par le rapport que vous avez à vos parents aussi, parce que tout d'un coup, vous avez accompli par votre parcours et aussi grâce à eux, grâce à leur volonté, parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul, leur rêve en fait.
Oui, oui, oui. Et encore une fois, je mettrai une nuance. Ma mère, qui évidemment pour nous tenir à la gorge, continue à nous dire à 80 balais, mais qu'est-ce que tu crois que tu as fait?
Et ça, c'est pas mal comme mantra finalement.
Oui, parce qu'on est tout le temps dans le... Sur le feu, quoi.
Et ça, c'est un discours que vous pouvez continuer à tenir à vos enfants, parce que j'imagine que la situation sociale de vos parents et la vôtre est très différente, donc les milieux dans lesquels sont élevés vos enfants sont sans doute supérieurs aux vôtres. Est-ce qu'on peut avoir le même discours de « on ne lâche rien, on doit être pugnace parce qu'on doit réussir, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher »
Je dirais qu'on aimait... plus de doutes.
Ouais.
On fait entrer la complexité dans tout ça, et donc on entre dans les nuances, et donc on transmet des nuances plus qu'autre chose.
Et quelles nuances vous pouvez transmettre qu'on vous a pas
donné? Ben, nos parents pensaient qu'on était algériens longtemps, et ma mère aujourd'hui refuse d'être française alors qu'elle a passé 80% de son temps en France. Moi, mes mômes, ils me disent « Papa, bon, on est français ou pas français ?» Ils entendent les débats intramuros. Vous êtes français, mais... Donc j'aimais la nuance, parce qu'à tout moment, je sais que pour la couleur de leur peau, la tessiture de leurs cheveux, leur prénom, leur nom de famille, à tout moment, il peut... Donc je leur explique que, oui, français, mais à tout moment, il y a une bastos qui peut partir. Alors vivez dans la vigilance.
On poursuit avec un autre son.
Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux. Une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche.
Supplique pour être enterré à la plage de Sète, une chanson de Brassens, vous l'avez reprise. Et vous, Majid Cherfi, votre supplique, c'est où votre chez-vous? Ce serait
Toulouse, bien sûr.
C'est un attachement toujours aussi fort?
Oui, parce que finalement, c'est, vous aimez l'endroit où vivent les gens, alors j'allais dire que vous aimez, mais qui vous aime. Donc nos géographies, elles sont, c'est des géographies sentimentales en quelque sorte.
Ça serait votre endroit, votre dernier lieu aussi, Toulouse?
Oui, absolument, oui. Oui, il y avait cette opportunité d'être parisien quand on fait de la musique, etc. Et puis ma mère m'a dit « Tu vas pas me quitter !» Donc je suis resté.
Elles peuvent tout. Je finis avec un cadeau pour vous. Je vous offre 21 rue La Boétie d'Anne Sinclair aux éditions Grasset. Elle raconte, elle aussi, comment cette question « Vos quatre grands-parents sont-ils français ?» C'est la question qu'on posait à des hommes et des femmes à une certaine époque en France avant éventuellement de les faire embarquer dans un train direction des camps de concentration. Et elle raconte l'histoire par cet intermédiaire de son grand-père Paul Rosenberg, qui était un grand marchand d'art, ami avec beaucoup d'artistes. Il y a une exposition en ce moment au musée Mayol qui est absolument sublime, où on voit comment Paul Rosenberg a eu la capacité à détecter avant l'heure des artistes qui sont majeurs aujourd'hui, comment aussi sa galerie a été confisquée par les nazis pendant l'occupation française, l'occupation allemande en France, pardon, et comment cet endroit est devenu le bureau de la question juive, quelque chose de très très violent. Et c'est le récit en fait de l'histoire d'une vie et d'une famille qui s'est construite à travers ce destin terrible, même si Paul Rosenberg a eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas de tous les Français de confession juive à l'époque.
Merci.
Anne Sinclair, justement à propos d'écriture, de plumes et de romans, vous êtes déjà sur un nouveau projet, un quatrième?
Je vais tout vous dire, je suis sur deux bouquins finalement, parce que cette espèce de succès un petit peu de ma part de Gaulois...
C'est mérité, il est formidable ce livre, il est tellement bien écrit.
Je suis encore sur un petit nuage, je dois dire, sur ce que j'entends des gens que je croise sur ce bouquin. Et donc, je suis un petit peu porté par une espèce d'alizé, et donc... Je suis sur l'écriture.
Et les deux projets sont diamétralement opposés. Il y a une fiction totale d'un côté, il y a encore une part d'autobiographie dans l'autre.
Non, je dirais que je continue un peu ce délire que j'avais ado d'écrire la grande saga de l'immigration. Alors j'y vais pas à pas.
Les gens tristes, c'est le premier extrait de cet album de Majid Cherfi en duo avec Olivia Ruiz. L'album s'appelle Catégorie Reine. Majid Cherfi est notre invité sur la bande originale jusqu'à midi. Oui.
Les gens qui ont le teint pâle ont la tête dans les étoiles. Ils attendent un héros que sorte si bon numéro.
Celui qui est raide et bien décidé à jouer sa vie avec les dés, met la misère à ses côtés et comme un lien de parenté, il se dit jamais c'est bizarre, on n'est pas pauvre par hasard, mais remet au secret des belles fumées, au sacrifice de l'animal, au trèfle ou au fer à cheval. Après tout, il suffit d'y croire. Les gens tristes sont pleins d'espoir. Les gens qui ont le teint pâle ont la tête dans les étoiles. Ils attendent en héros que sortent si bons numéros.
Les gens pour un peu de maille, en guise de représailles, ont toujours une occasion pour faire des croix dans des cases. À nous repus et blindés, sûr qu'on s'est fait des idées sur ce qui devant le désastre s'en remet aux astres. Ils sont et ça nous désespère, pas sur le chemin qu'on préfère. Les pommes et jeunes ou plus âgés ne rêvent pas de partager, mais d'une étoile qui viendrait poser sa grosse cylindrée là juste devant le trottoir et dire à notre tour d'y voir.
Les gens qui ont le teint pâle ont la tête dans les étoiles. Ils attendent en héros que sortent si bons numéros.
Les gens pour un peu de maille, en guise de représailles, ont toujours une occasion pour faire des croix dans des cases. Les gens,
Olivia Ruiz en duo avec Maggie Cherfi. Mmh. C'est un extrait de l'album Catégorie Rent. J'aime bien quand je parle. C'est, ah ça oui, s'appelle c'est ça. Les gens tristes. Maggie est venue présenter cet album, donc Catégorie Rent. Et puis, on avait envie de remettre un coup de projecteur sur ce livre que nous avons aimé chez Actes Sud. Et on n'est pas les seuls puisque c'est un succès. En plus, ma part de Gaulois, à vous de continuer de le lire et de le découvrir. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé tout d'abord pour Étienne Dao, qui a été décrit ce matin comme un vieux chanteur tricolore des années 40. Franchement, j'ai connu plus respectueux, même si on lui a rendu un hommage vestimentaire grâce à Nagui ce matin. Désolé pour la langue française qui a été légèrement bousculée ce matin par Leïla Kadour Boudadi. Et oui, elle a inventé pour nous un nouveau mot. En même temps, merci Leïla, c'est comme ça qu'on fait progresser une langue, en éclatant les frontières du dictionnaire. Désolé pour Cyril Hanouna qui nous a appelé à la pause furieux pour nous dire d'arrêter de dire PD et tapette à l'antenne. Il veut avoir l'exclusivité de l'homophobie. Ok, on a bien compris Cyril, on te laisse tout ça.
Merci mille fois d'être venu, Majid. Portez-vous
merci,
bien. Bonne tournée.
Beaucoup.
Bonne tournée dans le monde. Puisque,
oui.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah oui, il y aura de la couleur dans la salle et sur scène. Et je rappelle ce concert le 1er juin gratuit, pour FIP et qui sera organisé au studio 105 le 1er juin. Lundi, nous recevrons Maïtena Berabin avec Camille qui sera là en live. Ouh. Passez un bon week-end. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci, Majid.
Merci, Nagui. Merci, la bande. Et à lundi.